Sud Radio Berkov dans tous ses états.
Nous sommes en guerre.
Lorsque tu vas sur une ligne de production, c'est pas une punition, c'est pour ton pays, c'est pour la magie.
Nous sommes en guerre.
On se fout des programmes. Ce qui importe, c'est la vision.
Nous sommes en guerre.
Vaccinez-vous. Vaccinez-vous pour pouvoir vivre normalement.
Nous sommes en guerre.
Moi, par exemple, je me vis avec un homme déconstruit et j'en suis hyper heureuse.
Nous sommes en guerre.
Évidemment, c'est Radio Sandrine Rousseau ici. Oui, non,
mais... Nous sommes en guerre.
Nous laisserons dans sa vitrine ce mannequin de plastique, cet automate qui erre dans un labyrinthe de miroirs, ce masque sans visage qui défigure le nôtre. Nous laisserons cet adolescent se chercher éternellement.
Nous sommes en guerre.
Hitler, qui a quand même été élu de manière démocratique. Donc
tu le compares carrément à Hitler.
Bien sûr que je le compare à Hitler quand tu as la haine des autres.
Quelle horreur. C'est horrible ça. C'est un truc de nazi.
Nous sommes en guerre.
Et ben voilà, vous avez vu, les meetings se passent, les meetings s'enchaînent, la campagne est déclenchée, que ce soit Villepin, touché Mélenchon, ou Pécresse élue candidate des Républicains, tout ça monte, ça monte, ça monte, et voyez-vous, la réduction ad Hitlerum, qui est devenue le brevet des crétins qui n'ont rien d'autre à dire, marche à fond, voilà, Hitler ou pas Hitler, on en est là, mais... Vous savez très bien qu'on va relever le niveau, bien sûr, avec vous, auditeurs de Sud Radio. Et on va parler de quelque chose de très important qui va se passer à la fin de la semaine, cette semaine, le Doctoton. Non, non, pas le Téléthon, le Doctoton. Et c'est quoi? On va en parler et puis on va recevoir Geoffroy Lejeune, directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles, mais qui a écrit un livre assez drôle, assez amusant. Il a écrit en 2015 et ça s'appelait « Zemmour président ». Fiction ? Fiction, cauchemar ou réalité? On en parle.
Le parfum Terre de France, 100% des bénéfices au service de notre pays, présente...
Ici Sud Radio. Les Français parlent aux Français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites.
Sud Radio Berkov dans tous ses états.
Alors aujourd'hui, tenez-vous bien, un conseil de défense sanitaire se tient aujourd'hui, en ce moment. On n'en sera pas grand-chose parce que vous savez que le conseil de défense sanitaire est comme les autres, classé sous le signe secret défense. Oui, on n'en saura rien avant 50 ans, sauf si le conseil constitutionnel ou les députés ou les assemblées demandent que l'on lève le secret. Bon, on verra bien. Mais le problème, il n'est pas là. C'est que aujourd'hui, un certain nombre de médecins, des dizaines, des centaines, se préparent à prendre la parole non-stop, sans arrêt, pendant 24 heures à partir de ce vendredi. Et ces médecins sur le Covid-19, sa gestion, ses conséquences et ce qui se passe ont beaucoup à dire. On en parle tout de suite.
Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le fait du jour.
Bien sûr, auditeurs de Sud Radio, vous la connaissez, cette musique. C'est la musique du Téléthon, bien sûr, la musique du Téléthon chaque année, qui fait appel à vos dons et qui fait appel à vos dons très légitimement. Là, il ne s'agit pas de faire appel à vos dons. Il s'agit de réfléchir et de discuter avec le Doctoton. Alors vous allez me dire, mais c'est quoi ça, le Doctoton? Qu'est-ce que ça veut dire, le Doctoton? Eh bien, on va en parler avec Cécile Maïchak, qui est l'une des organisatrices de ce qui va se passer dans quelques jours. Bonjour Cécile Maïchak.
Oui, bonjour. Bonjour.
Bonjour.
Je suis ravie d'être là.
Alors, dites-moi, c'est quoi ce Doctoton? Et d'abord, l'idée est venue, d'abord, Doctoton, qu'est-ce que ça veut dire? Comment vous est venue l'idée? Et de quoi s'agit-il?
Alors, comment m'est venue l'idée? C'est venu en interviewant 5 docteurs il y a un mois de ça à peu près.
Oui. Donc,
c'était dans un live et je les ai interrogés. Et puis, à un moment, ils ont dit, tiens, ce serait bien qu'on se réunisse. Ce serait vraiment bien qu'on se réunisse. Et puis, parallèlement à ça, on a tous remarqué le nombre de vues qu'avait eu cette vidéo. Donc, je me suis dit, mais vraiment, il y a une demande au niveau du public, au niveau des citoyens, il y a une demande d'information concernant voilà, ce que les médecins en pensent.
Ce que les médecins ont à dire, certains médecins, oui, tout à fait.
Mmh. Exactement, et donc voilà, l'idée du Doctoton est née comme ça, elle est d'ailleurs née pendant l'émission, en fait. C'est venu dans mon petit cerveau, là je me suis dit, ah tiens, une prise de parole de médecin, ce serait sympa, en grand nombre. Mmh. Et donc, de docteur d'ailleurs, pas que de médecin, de docteur.
Vous voulez dire aussi bien de chercheurs, de scientifiques et de médecins, c'est ça, on peut dire ça.
Tout à fait, donc oui, c'est ça, exactement. D'accord.
Alors, le Doctoton, il s'agit de quoi? Pourquoi le Doctoton? Parce que le Téléthon, ça dure 24 heures, on voit énormément de gens qui succèdent, de comédiens, d'animateurs et autres. Et là, il s'agit de quoi? Ils vont se succéder, les médecins? Comment ça se passe? Comment ça va se passer?
Oui, tout à fait. Donc, ils vont se succéder. Il va y avoir évidemment une introduction avec le parrain de l'émission qui est Christian Perron. Et puis ensuite, les médecins vont commencer, les docteurs vont commencer à s'exprimer. Ils ont chacun 3 minutes pour passer un message très clair, très précis sur cette crise qu'on vit, qu'on subit plutôt.
Oui.
Et donc, les messages vont être très, très, très variés et non seulement en quantité, en qualité et aussi en origine.
Alors, donc, ça commence quand exactement et ça va durer combien de temps?
Ça commence le vendredi 10 à 18h et ça se termine le samedi 11 à 18h.
D'accord, donc 24 heures non-stop.
C'est ça, 24 heures non-stop.
Où donc un certain nombre de médecins, chacun va parler 3 minutes, c'est ça, et ils vont se succéder, pour chacun dans un sujet précis, etc. Allez-y, j'en prie.
Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Ils choisissent leur sujet, on a demandé juste d'être bienveillant. Que ce soit bienveillant, que ce soit 3 minutes et que ce soit bien dans le cadre du Covid.
D'accord. Et alors, ça va être sur quel site pour que les auditeurs de Sud Radio et puis tous les autres le savent? Ça va être, où est-ce qu'il faut qu'ils se branchent pour suivre cela?
D'accord. Alors, on a créé un petit site internet qui s'appelle, c'est www.doctoton.com. Et donc, là-dessus, les auditeurs peuvent retrouver tous les médias sur lesquels ce sera diffusé.
D'accord.
Mais on retrouve évidemment le gros média, d'abord celui avec lequel ça se fait, donc c'est Les Colères des Rues, et ça c'est sur Facebook.
Oui.
Et puis il y aura, l'émission sera aussi diffusée par Réafo Covid, l'Alliance Humaine, Jean-Jacques Crèvecoeur, mais donc toute cette liste est sur le site internet.
Alors vous avez des gens très divers, je sais, vous avez je crois Louis Fouché, vous avez Martine Voller, vous avez qui, dites-moi quelques noms comme ça qui...
Oui. Martine Bonner est la marraine de l'émission, du Doctoton.
D'accord.
Et puis, on a effectivement Louis Fouché qui va faire une intervention aussi. Astrid Stuckelberger sera là aussi.
Oui.
Christian Perron, je l'ai déjà dit. Évidemment, j'espère beaucoup avoir Luc Montagnier. J'adorerais, je lui lance un appel.
Oui.
Je serais honorée de l'avoir avec nous pour conclure le Doctoton. Et puis voilà, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de docteurs qui sont déjà connus, Laurent Montesino.
Mais ils sont tous soit médecins, soit scientifiques, soit chercheurs.
Oui, absolument. Il y aura quelques témoignages rares, très rares, d'autres soignants, mais peut-être un ou deux, pas plus. Et quelques témoignages aussi de personnes qui subissent des effets secondaires et qui ont demandé à pouvoir... en témoigner, mais là, c'est aussi un ou deux, pas plus. Sinon, ce sont que des docteurs et, a priori, ce sont 300.
Alors, Cécile Maïchak, quand même, vous nous avez donné des noms, c'est plutôt parmi des gens que certains considèrent comme sulfureux. Hein. C'est ceux qui mettent en question un certain nombre d'idées sur la gestion du Covid, sur les vaccins, sur un certain nombre de choses. Et c'est un choix. Parce que votre idée, c'est quoi? Vous dites que la réalité sur le Covid-19 n'est pas vraiment communiquée, ou en tout cas une certaine réalité. L'intention de cela, c'est quoi?
Alors, effectivement, il y a toute une vérité, en tout cas un axe de vérité qui n'est jamais communiqué, et donc je peux vous le dire en prenant les contacts avec les différents docteurs, je peux vous dire que le monde médical aujourd'hui est en grande souffrance, et il est urgent que ça se sache, donc ça c'était un premier objectif. Un autre objectif...
En grande souffrance, oui. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils vous disent quand vous dites en grande souffrance?
Ce qu'ils me disent, c'est qu'ils ne peuvent pas s'exprimer, ils ne peuvent pas soigner. Le serment d'Hippocrate qu'ils ont prêté, ils ne peuvent plus le respecter. J'ai des médecins
D'accord.
qui sont vraiment des docteurs qui sont en très, très grande souffrance.
D'accord.
Et le peuple va être aussi en très, très grande souffrance parce que beaucoup de médecins s'arrêtent à cause de ça. Il faut le savoir, c'est un
phénomène. Arrête d'exercer comme des soignants arrêtent d'exercer, etc. C'est ça.
Oui, absolument.
Et ensuite, alors vous dites la souffrance, et ensuite
Et donc l'autre chose, c'est qu'il y a une espèce de fracture qui s'est créée à travers toute cette crise entre le monde médical et le monde scientifique et les citoyens. Et donc cette action est aussi destinée à réconcilier un peu ces deux mondes-là, les citoyens et le monde scientifique, parce que vraiment, il y a une fracture qui s'est créée, je pense qu'il y a quelque chose à faire là, et ça va pouvoir le permettre. Et puis... peut-être de montrer à d'autres médecins, à d'autres docteurs qu'une autre voie est possible, une autre voie dans les deux sens, à VOIX et VOIE, est possible. Et donc, voilà, ils peuvent peut-être entrer dans quelque chose de nouveau, sortir un peu de leur peur aussi, et voilà, agir autrement, c'est possible.
Donc, en tout cas, il n'y a pas une question de récolter des dons ou quoi que ce soit, c'est pas du tout dans cet esprit-là.
Alors, l'esprit d'Octoton, c'est pas celui-là. Donc, c'est vraiment communiquer une information différente. Donc, contrer un peu à une certaine forme de matraquage par un autre matraquage, donc de 300 médecins pendant 24 heures.
Oui,
Il y aura probablement un soutien à l'une ou l'autre association et on en parlera. Mais le but premier n'est pas celui-là, non. Absolument pas.
D'accord. Oui, le but premier, c'est de communiquer, de faire connaître une information que vous dites un peu étouffée, pas ça et là, par, je dirais, les médias dominants, en tout cas un certain nombre de médias dominants, c'est ça ?
Absolument.
Et en suivant, que pensez-vous vous-même ? Alors, d'abord, Cécile Maïchak, vous vous présentez comme une citoyenne, comme les autres.
Oui.
Vous n'avez pas une spécialité, enfin, qui vous... Vous n'avez pas... Vous ne dites pas « je suis là parce que j'ai telle ou telle connaissance ou avantage ». Vous dites « je suis une citoyenne, j'ai envie de savoir ce qui se passe, j'ai envie de savoir pour moi, pour ma santé, pour celle de mes proches, pour celle de tout le monde ». Et c'est ça qui vous a fait agir en ce sens.
Absolument. La seule chose qui m'a permis de le faire, qui me permet de faire ce que je suis occupée à faire, c'est que j'ai 15 ans d'expertise en gestion de projet. Et donc, je suis capable de gérer un projet et de réunir des gens autour de moi pour gérer ce projet.
D'accord.
Et donc, c'est ce qui se passe là. On réunit les médias, on réunit beaucoup, beaucoup de gens. Je réunis beaucoup de gens, dont les docteurs. Ça, c'est une chose c'est une capacité que j'ai et que je mets au service de la cause.
Bah, c'est important d'avoir ces compétences-là aussi. À l'heure où on parle, si c'est la machin, combien de médecins vont participer?
Alors, à l'heure où on parle, il y a... Absolument, donc, noté, inscrit définitivement une centaine de médecins.
Une centaine.
Et il y a dans le pipeline, donc des contacts, une autre centaine de médecins. Donc, ils doivent me donner l'heure à laquelle ils participent.
D'accord.
Et donc, ça veut dire que voilà, la communication ouverte vraiment au public n'a commencé que hier.
D'accord.
Donc, ça veut dire qu'on va encore inscrire beaucoup, beaucoup de gens d'ici la fin de la semaine. On aura 300 médecins sans aucun doute. Je viens de recevoir un email d'un médecin d'Afrique du Sud. Je ne sais même pas comment il a eu l'information.
Ah oui. Vous avez aussi donc des médecins étrangers, enfin des médecins de pays étrangers qui vont participer.
Bien sûr, Maroc, Afrique du Sud, Guinée, Bénin.
D'ores et déjà, ça, ah ouais.
Oui, mais ça c'est déjà fait. Québec aussi. Oui, ça c'est déjà fait. Italie, d'accord. Espagne, Belgique, Luxembourg. Enfin, ouais, il y a beaucoup de pays. Israël.
Oui, Israël, bien sûr, avec ce qui se passe, leur quatrième dose déjà. Donc, trois minutes par médecin, non-stop, c'est bien ça.
Oui, c'est ça. Avec des petits intermèdes, avec des petites surprises, parce qu'il faudra quand même souffler un peu de temps en temps, surtout pour les internautes qui vont regarder l'émission.
Alors, je vais pas vous demander les surprises, puisque c'est une surprise, mais il y aura des images quand même, il y aura des images différentes que les portraits, que les médecins de pied en cap.
Alors, en termes d'image, non, pas particulièrement. Donc, il y aura surtout des arrivées d'invités surprises. Ça, oui. On a prévu beaucoup d'intermèdes comme celle-là. Mais comme je vous l'ai dit, moi, je suis une citoyenne. Je n'ai pas nécessairement les moyens d'avoir une équipe technique autour de moi pour insérer des vidéos, images. Donc, on fait avec ce qu'on a et on va faire au mieux. Bon, on prépare vraiment quelque chose de chouette.
Alors écoutez, le Doctoton, donc ça commence vendredi à 8h du matin, c'est ça ?
Non, à 18h, à 6h.
À 18h, pardon. Vendredi 18h jusqu'à samedi 18h, ce vendredi.
C'est ça.
D'accord.
C'est ça.
D'accord. Et écoutez, voilà, alors auditeurs de Sud Radio, si ça vous intéresse, et à mon avis ça intéressera beaucoup de gens, eh bien on compte sur vous. Rappelez juste le nom du site sur lequel on doit se brancher.
C'est www.doctoton.com. Donc Doctothon, c'est D-O-C-T-O-T-H-O-N.
Eh bien, écoutez, Cécile Machac, on va suivre ça et puis on va voir et on en parlera évidemment lundi prochain des résultats de ce Doctothon avec ses confessions multiples et variées puisque vous attendez, je le rappelle, 300 médecins, ce qui n'est pas mince.
Et cet événement sera à suivre pendant 24 heures, mais vous n'avez pas 24 heures pour nous appeler. Vous le faites maintenant au 0826 300 300 pour réagir.
Le parfum Terre de France, 100% des bénéfices au service de notre pays, présente...
Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau.
Sud Radio Berkov dans tous ses états.
Meeting d'Éric Zemmour à Villepinte. On va en parler avec Geoffroy Lejeune en seconde partie de l'émission. Meeting de Jean-Luc Mélenchon. Je crois que c'était au Palais des Sports à Versailles. En tout cas, meeting, mais sans pass sanitaire. Il y a des gens qui s'en émeuvent. Ont-ils raison ou pas? On en parle tout de suite.
Sud Radio, André Berkov. Ça balance pas mal. Berkov, dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio.
Oh, du constitutionnellement, parce que l'État nous ment et que nos conditions de vie, elles nous rendent dément. On a 1, 2, 3, 4 ans, 1, 2, 3, 4 mouvements. Si j'agis pour les miens, mal.
Anticonstitutionnellement. Vous voyez, ça prend du temps à le dire, mais ça va, le temps d'antenne, c'est bien. Monsieur R qui dit ça. Alors, le pass sanitaire. Anticonstitutionnel ou pas? Eh bien, écoutez, c'est plus compliqué que ça. D'abord, c'est intéressant parce que sur le meeting d'Éric Zemmour, notamment, on en a beaucoup plus parlé que le meeting de Jean-Luc Mélenchon, eh bien, il y a des gens qui se sont indignés d'abord pour des motifs dits sanitaires. Oui, en disant... Alors, sur le fond, après, il y a eu toutes les discussions, les violences, on va en reparler plus tard. Mais là, attention, par exemple, Valérie Pécresse, qui devait faire un meeting aujourd'hui, l'a annulé. Il dit pas question de faire un meeting sans passe sanitaire, dit jeudi dernier Valérie Pécresse. Jamais je ne mettrai la sécurité des Français en danger en raison de la campagne. Merci Madame Pécresse de vous préoccuper de la santé des Français. Mais elle n'est pas la seule. Christian Jacob, le président des Républicains, lui aussi, en parlant effectivement du meeting de Zemmour, s'inquiétait. Écoutez.
D'abord sur l'organisation de ce meeting, moi je trouve que c'est particulièrement irresponsable. Pas de passe sanitaire. Un tel rassemblement au moment où on voit bien que on est dans la cinquième vague qui arrive sur le plan sanitaire. Moi, je ne comprends pas.
Vous avez annulé le. Oui, alors, est-ce qu'il est annulé vraiment ce meeting du 11 décembre ou est-ce qu'il y aura quand même une réunion
Non, on fera sans doute une réunion des cadres, mais j'ai effectivement pris la décision d'annuler le meeting. Moi, on pouvait pas prendre le risque de devenir le premier cluster de France.
Ah, ce cluster. En revanche, dans le métro, pas besoin de passe sanitaire, comme vous le savez, là, il n'y a pas de cluster, il y a les masques. Donc, le cluster sous terre, non, ça ne marche pas, le cluster underground. Mais alors, effectivement, tout le monde s'est inquiété, y compris un candidat malheureux à la nomination, à la candidature FR pour la présidentielle, le professeur Philippe Juvin, le médecin. Eh bien, Philippe Juvin, lui aussi, avant le meeting de Zemmour, attention, le meeting de Zemmour, parce que était très, très, très inquiet, il le dit, écoutez.
Sauf que le fameux grand meeting à Villepinte, moi, me fait un peu peur. Là, c'est le docteur qui parle.
Et on y reviendra d'ailleurs, nous en parlons de ça.
Plusieurs milliers de personnes réunies dans un lieu clos, sans passe sanitaire, actuellement, je pense que c'est totalement irresponsable.
Alors, quelle inquiétude, c'est vrai, ce cluster, tout le monde s'inquiète, c'est vrai, il dit mais comment, enfin ce Zemmour, irresponsable, irresponsable, comment il attente à la santé des Français, quelque part, c'est pas possible. Sauf que, est-ce que c'est vraiment obligatoire, requis, légal, constitutionnel, d'avoir son pass sanitaire en allant dans un meeting politique? Eh bien, écoutez ce que disait chez nous, à l'émission, le sénateur UDI de Haute-Savoie, Loïc Hervé, vendredi dernier. Écoutez.
Le pass sanitaire, il est exigible dans un nombre limitatif d'endroits. Vous ne pouvez pas décider de vous-même de l'imposer où vous voulez. Il y a des endroits, des cas de figure où c'est autorisé, même c'est obligatoire, et il y a des cas de figure où on ne peut pas le demander. Et d'ailleurs, il y a une sanction pénale.
Oui.
De mémoire, c'est 45 000 euros d'amende et un an de prison si jamais vous demandez le pass sanitaire là où il est pas exigible. Et je peux vous donner un exemple d'un meeting candidat à la primaire de la droite où le pass sanitaire a été demandé. C'est illégal.
C'est illégal. Vous avez entendu, cher Christian Jacob, cher Philippe Juvin, cher Valérie Pécresse, c'est illégal, dit le sénateur Louis Kervé. Non, le pass sanitaire n'est pas demandé, n'est pas exigé dans un meeting politique. Alors, avant de crier à l'irresponsabilité, à l'empoisonnement, à ceci ou cela, quand même, consultez les sénateurs peut-être, hein, ce serait pas mal, dont Loïc Hervé pourra vous rappeler où en est la loi. Alors après, on peut discuter de la nécessité ou non du pass sanitaire. Mais c'est vrai, avant de faire des déclarations, peut-être qu'il ne serait pas mal, et ça vaut pour un certain nombre de gens, peut-être de vérifier où ça en est là-dessus, hein, avant de pousser les cris d'orfraie. Ce serait bien pour tout le monde.
Sud Radio Berkov dans tous ses états, les perles du jour.
Noir c'est noir, il n'y a plus d'espoir. Oui, gris c'est gris, et c'est fini. Oh, oh, oh.
Noir c'est noir, Johnny, effectivement. Et là, à Paris, et il y a organisé pendant tout le week-end, là, ce week-end dernier, dans le 18e arrondissement, un événement rassemblé des produits de créateurs africains et afro-descendants. Alors, voilà, ça s'appelle, l'association s'appelle Je Consomme Noir. Des produits, donc, nourriture, prêt-à-porter, livres, produits de beauté, et pourquoi pas, encore une fois. Mais là où le bât blesse, c'est le côté « Je Consomme Noir ». Encore une fois, est-ce que c'est vraiment le temps? C'est comme si, et ce serait encore au moins aussi lamentable, qu'une association fasse quelque chose qui s'appelle « Je consomme blanc » ou « Je consomme jaune » ou « Je consomme asiatique » ou « Je consomme je ne sais pas ». C'est pas possible, si vous voulez. On comprend pas très bien. Alors, on comprend, c'est très sincère, on comprend, je crois que la sincérité est là. L'avocat, d'ailleurs, disait, au même titre qu'un marché de Noël alsacien, provençal ou antillais, rien n'empêche le commerçant de se regrouper autour d'un thème, que ce soit celui d'être noir, africain ou afro-descendant, puisqu'il est ouvert à tout le monde. Évidemment, il ne refuse pas aux consommateurs de blanc de venir. Mais enfin, franchement, est-ce que c'est le moment, avec cette espèce d'inflation hallucinante du wokisme, de la cancel culture, des racisés, des colonisés, des opprimés, des ceci, des cela, de dire « je consomme noir », bah écoutez, je consomme, et je consomme africain, et je consomme occidental, et je consomme asiatique, et je consomme libanais, etc., etc. Mais arrêtez, pourquoi un marché spécifique « je consomme noir » Pourquoi ? Pourquoi réserver aux créateurs africains et afro-descendants ? Pourquoi ne pas ouvrir ça à tout le monde ? De même que dans tous les autres marchés de Noël, mais qu'il y ait, et il y en a, des stands d'afro-descendants, des stands asiatiques et compagnie. Si vous ne commencez pas à refaire nation, si vous ne commencez pas à refaire collectif, mais dans tous les marchés de Noël, toutes les ethnies, toutes les cultures devraient être représentées. Et ça ne devrait même pas exister, consommer noir, consommer blanc, consommer jaune ou consommer bleu ciel. Ça veut dire quoi? Ça ne veut strictement rien dire. Alors s'il vous plaît, vive le marché de Noël, vive le marché qui ne s'appellera pas le marché du fantastique décembre, hein, le marché des fêtes. Non, marché de Noël pour tout le monde, avec les produits de tout le monde et du collectif, chacun dans sa singularité. Et là, ce sera très bien.
Sud Radio Berkov dans tous ses états.
C'était un jeu d'enfant. On se sentait gagnant d'un temps les plus grands. Jouer plus perdant. Faisions les quêtes en cours.
Alors voilà, c'est Augustin Moriot de la Dream Team qui compose avec Thibaut Sadler et moi-même Berkov dans tous ses états. Qui, passant devant un magasin, a vu un jeu de société. Et oui, il y en a beaucoup des jeux de société, hein. On est cadeaux de Noël, évidemment. Les devantures à fleurs produits des jeux de société, ça champignonne.
Et ben là, on est tombé sur un jeu qui s'appelle Antifa. Voilà, Antifa, le jeu. Alors, racisme, sexisme, nationalisme, ça suffit. Contre l'extrême droite, c'est écrit sur la présentation. À vous de jouer. Voilà. Alors, je vous lis quand même la présentation, parce que ça vaut son pesant. Je ne dirai pas de quoi. Antifa, le jeu est un jeu de plateau, de simulation et de gestion, dans lequel vous faites vivre un groupe antifasciste local. Chaque joueur incarne un militant avec des compétences particulières. Chaque mois, votre groupe va être confronté aux exactions d'extrême droite. Et pour chaque événement auquel vous allez faire face, vous décidez quelles actions mettre en place. Chacune étant plus ou moins efficace et plus ou moins risquée. Au fur et à mesure de son existence, votre groupe va se retrouver dans des situations de plus en plus complexes, présentées dans différents scénarios, en utilisant une sélection des cartes du jeu. Inventé par des militants antifascistes de longue date et inspiré de faits réels, Antifa est un outil de formation. Ces militants sont des compagnons de longue date des éditions Libertalia, le réseau No Passaran. Très bien, très bien. Alors voilà, ça c'est un jeu de société. Eh bien, je vois que ce jeu de société a été mis en application hier à Villepinte. On retrouvait, effectivement, ont été arrêtés un certain nombre de gens, je ne dis pas que ce sont tous des Antifa ou pas, avec des matraques, avec des cocktails Molotov, avec des bouteilles d'acide, hein, pour des jets d'acide, et plus si affinité. Je ne parle pas de la personne qui s'est précipitée sur Zemmour et qui lui a mis les mains à la gorge. Passons. Alors c'est ça les jeux de société aujourd'hui pour enfants, c'est ça les jeux de société qu'on vend pour Noël, voilà. On va voir comment on va faire avec l'extrême droite. Imaginez un peu qu'un mouvement d'extrême droite, que je considérais exactement de la même façon, dit « Eh ben on va faire un jeu hein, pour contrer et pour régler leur compte aux gens de gauche. » Voilà, aux gens évidemment, aux gens de gauche, à l'extrême gauche, aux racisés, aux indigènes, etc. Vous imaginez un peu le tollé que ça aurait suscité. Eh ben ça n'existe pas, et heureusement que ça n'existe pas. Par contre, voilà, Antifa le jeu est vendu librement, partout, voilà, la liberté d'expression, ça s'appelle, paraît-il, mais là, c'est la liberté d'aller où ? Or, on l'a vu, effectivement, et pas seulement à Villepinte, mais ailleurs, jusqu'où ça peut aller, jusqu'où on peut cracher sur les gens, etc. Alors franchement, jeu d'enfant, jeu de gamin ou jeu de vilain, je sais pas, réfléchissons à tout ça.
Et vous avez rappelé hier, André, les exactions, justement, bah écoutez, commises par les Antifa, ou en tout cas qui tentaient d'en commettre à Villepinte hier. On va en parler dans un instant avec Geoffroy Lejeune, qui a écrit Zemmour président il y a déjà 5 ans, qui réédite ce livre à l'aune de l'actualité. On va en parler à partir de 12h45, et vous nous appelez déjà au 0826 300 300.
Sud Radio Berkov dans tous ses états.
Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent bien. Voir les comédiens, voir les musiciens.
Ben on est bien d'accord, Charles Aznavour, surtout que pendant des mois de Covid, on n'a pas pu voir les comédiens, ni les musiciens, ni les autres. Mais est-ce qu'il faut aller à l'hôpital pour les voir ? Alors, moi, je vous raconter, Berkov, on ne va pas à l'hôpital pour voir les comédiens, on va à l'hôpital pour se soigner. Eh ben, à Brive. À l'hôpital de Brive, la direction a employé 2 acteurs pour tester l'accueil dans 6 de ses services. Sauf qu'un comédien qui était un peu trop loin a été démasqué. Voilà, ça s'est passé. Alors, est-ce que c'est scandaleux ou pas ? Apparemment, les syndicats ont très mal réagi. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont fait des comédiens avec un faux patient et un faux, je dirais, expert et un faux responsable d'accueil. Vous voyez, alors voilà, ils ont raconté ça au quotidien régional La Montagne. Le procédé est agressif, il dit, enfin, des vrais patients ont appelé. Alors voilà, il y a des faux patients, il y a des faux médecins maintenant. Alors, il y a, selon la radio France Bleu, l'un des comédiens aurait un peu trop exagéré dans sa prestation au service psychiatrique. Et cet incident a mobilisé de nombreux agents qui ont même contacté les forces de l'ordre pour s'assurer qu'une personne désorientée n'était pas recherchée. En fait, c'était un acteur qui en a mis un... Voilà, ils jouaient donc en fait les patients, hein, et ils arrivaient pour voir un peu comment on les accueillait. Alors, écoutez, c'est très bien, c'est bien. Pourquoi pas faire des tests? Ça s'appelle du journalisme déguisé. Beaucoup l'ont utilisé à un moment donné ou à un autre. Mais là, en pleine période de Covid, en pleine période de saturation, c'est peut-être pas la meilleure méthode. Je ne sais pas. Alors, voilà. Est-ce que c'est bien? Ce n'est pas bien? On voulait vous en parler. Dites-nous ce que vous en pensez. Effectivement. Jean-Pierre Salès, qui est secrétaire de la section hôpital de Brive à la CFDT, a dit faire ce genre d'enquête cachée avec des comédiens, c'est très malvenu. C'est écœurant comme pratique que l'on fasse des enquêtes utiles à tous, pourquoi pas, mais d'une manière ouverte et officielle, on prévient. Enfin voilà, de toute façon, polémique à l'hôpital de Brive. Dites-nous ce que vous en pensez, est-ce que c'est bien ou pas d'utiliser des comédiens pour voir comment se passe l'accueil à l'hôpital. Je ne sais pas si c'est vraiment nécessaire, et en tout cas ce qui se passe en ce moment avec le Covid et dans les hôpitaux, avec les milliers et milliers de gens qui ne peuvent même pas se faire examiner et surtout pas se faire traiter parce qu'il n'y a plus de place et il n'y a plus de personnel, ça, ce n'est vraiment pas du théâtre.
Et comme toujours dans l'émission, que vous souhaitiez réagir au sujet d'actualité ou au sujet du face-à-face, vous nous appelez au 0826 300 300. Nous allons parler dans un instant d'Éric Zemmour qui était hier en meeting à Villepinte avec quelqu'un qui avait imaginé sa candidature il y a déjà 6 ans, Geoffroy Lejeune, directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles. À tout de suite.
Le parfum Terre de France, 100% des bénéfices au service de notre pays, présente Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face.
Et en 2015, Geoffroy Lejeune imaginait l'essayiste Éric Zemmour président. Hier à Villepinte, Éric Zemmour a fait son premier meeting en tant que candidat à la présidentielle et vous publiez ce livre, vous rééditez plutôt ce livre, Zemmour président de la fiction à la réalité aux éditions Ring.
Oui, alors Geoffroy Lejeune, on ne va pas faire semblant de ne pas se connaître. Mais c'est vrai que c'est en 2015 que vous avez écrit le livre.
Ouais. C'est à cause de vous d'ailleurs, André, si vous permettez.
Comment c'est, pourquoi à cause de moi?
Parce que, attends, il faut quand même raconter aux auditeurs, pardon. En fait, à l'époque, j'étais très admiratif des fictions publiées l'été dans Valeurs Actuelles par André Berkoff. Et donc, en fait, je me suis dit, j'ai eu l'idée d'une fiction, moi, parce que je lisais vos épisodes dans Valeurs Actuelles. C'est comme ça que je me suis dit que j'allais faire ça.
Et c'est vrai que 2015, parler de Zemmour président, c'était pas mal, parce que ça fait 6 ans exactement. Et alors, vous l'avez réédité, vous avez bien fait, en ajoutant effectivement un essai de la fiction à la réalité. Tout ce qui s'est passé depuis, etc. Et donc, et puis vous le connaissiez, enfin vous le connaissiez depuis longtemps, vous racontez effectivement comment vous avez connu Éric Zemmour, Geoffroy Lejeune, d'ailleurs vous avez organisé aussi des réunions avec lui, avec Houellebecq et autres. Ce qui est intéressant au fond, c'est qu'est-ce que vous avez pensé, et là je parle de 2015, que Zemmour pouvait effectivement sauter le pas et faire ça.
Il y a deux choses. La première, c'est les deux intuitions que j'ai en 2015 qui se sont avérées, en réalité. La première, c'est que je pense qu'il est au bon positionnement stratégique pour faire la réconciliation des électeurs de la droite et du Front National, qui, depuis 30 ans, sont divisés. Alors, c'est ce qu'on appelle le piège mitterrandien, c'est-à-dire créer une extrême droite qui fait très peur et qui ne peut pas gagner parce qu'au second tour, on se mobilise contre elle, tout en affaiblissant la droite qui voit ses électeurs se partir chez Jean-Marie Le Pen, puis chez Marine Le Pen. Donc, en fait, je pense qu'il est au bon endroit, sur l'échiquier politique, avec le bon discours, etc., pour réconcilier, pour mettre d'accord, en fait, les électeurs du FN et les électeurs de la droite, en disant aux électeurs du FN, vous avez raison, mais on vous traite comme des parias, et vous gagnerez jamais parce que votre parti est diabolisé, c'est très injuste, mais c'est comme ça. Et en disant aux électeurs de droite, ça fait 30 ans que vous votez pour mes idées, vous avez cru Chirac, vous avez cru Sarkozy, vous avez cru Fillon, et en fait, soit vous perdez, soit vous êtes trahi. Donc en fait, avec ces deux discours-là, il était pour moi au bon endroit, mais déjà en 2015, il incarne déjà ça pour moi, Éric Zemmour. Et la deuxième raison, c'est...
Mais qu'est-ce qui vous avait pensé, juste Geoffroy, le jeune, qu'est-ce qui vous avait pensé que... Il était journaliste, essayiste, éditorialiste, d'accord, connu, mais qu'est-ce que vous avez pensé qu'il pouvait sauter le pas, parce que la politique, c'est autre chose.
Eh ben... la vérité, c'est que pour le coup, au début, je l'ai pas pensé. J'ai su, j'en ai parlé avec lui. Il m'a dit, fais pas ce livre, ça me met dans la merde. C'est pas du tout mon plan de carrière. J'ai pas envie de faire ça. Mais malgré tout, ce qui m'a fait penser que c'était possible, c'était que c'était le deuxième point que je voulais développer. C'est je voyais partout dans toutes les démocraties occidentales. Et vous savez très bien dans le cas de Trump que vous avez suivi, interviewé, etc. Ce qui s'est passé aux États-Unis, qu'en fait, il y avait des gens qui sortaient pas du sérail, qui arrivaient avec un discours vrai. C'est c'est ce que vous avez appelé à l'époque, André, en interviewant Trump, la désintermédiation. Tout à coup, il y a un lien direct avec le public. Tout à coup, il suffit de Twitter, on n'a plus besoin des médias pour s'adresser aux gens. Et en fait, Zemmour, pour moi, avait cette capacité-là, un peu comme Trump ou comme BP Griot, comme l'Ukrainien, etc. En gros, ça faisait 15 ans qu'il défendait des idées, parfois seul contre tous, ou en tout cas pas beaucoup soutenu. Et l'audience, je voyais l'audience progresser, quoi. La télévision, les bouquins, le suicide français, 500 000 exemplaires, etc. Je me disais, il se passe autre chose qu'un simple phénomène éditorial.
Et alors justement, on en arrive là, et donc vous racontez un peu dans votre livre, d'abord, effectivement, vous faites mourir Le Pen, le pauvre.
Ouais, enfin, le pauvre.
Bon, ça c'est la fiction.
Pardon. Ouais.
Mais autrement, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses, parce qu'il y a aussi le fait que vous avez fréquenté un certain nombre, pas autant, parce que vous êtes beaucoup plus jeune que Zemmour, mais vous avez fréquenté un certain nombre de ces hommes politiques, avec vos fonctions à valeurs actuelles et autres. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous montrez effectivement que cette possibilité, elle est là, et que effectivement, que on voit très bien les réactions. D'ailleurs, vous dites vous-même que beaucoup de réactions d'hommes politiques que vous faites parler dans votre livre sont vraies. Enfin, sont...
Oui. En fait, moi, à l'époque, c'est pour ça que je m'étais beaucoup amusé à faire ce livre. Et c'est qu'en fait, je suivais la droite pour Valeurs Actuelles et aussi un peu le Front National. Et donc, je savais, je discutais avec les gens. J'ai beaucoup couvert, notamment, bah, en fait, le casting de la dernière élection primaire, pas celle-là, mais celle d'avant. Sarkozy, Fillon, exactement, Juppé, Copé. Je les connaissais très bien. Et j'avais beaucoup de discussions avec eux. Je savais qu'ils avaient des failles. Je savais qu'ils se rendaient bien compte qu'ils avaient perdu quelque chose avec leurs électeurs et qu'il y avait cette faiblesse. Et donc, en fait, et puis de la même manière au Front National. En fait, moi, ça fait des années que je discute avec la classe politique, essentiellement à droite, mais pas uniquement d'ailleurs. Et je vois bien, si vous voulez, je voyais bien que il y avait un vide. Il y avait un vide. Ils le reconnaissaient eux-mêmes. Je sentais le désarroi de certaines
personnes. Ils sentaient qu'ils avaient perdu une partie de leur du public, enfin des Français.
Exactement. Quoi. Et ils savaient pourquoi aussi. Et puis surtout, moi, je me suis habitué à avoir le discours des politiques, ce qu'on appelle en off, c'est-à-dire ce qu'ils me disent à moi en vrai, oui, et puis sûr. De constater la différence avec ce qu'ils disent publiquement. C'est-à-dire l'auto-censure, la peur parfois la lâcheté, etc. Je connais ça. Et donc je savais que je voyais Zemmour en fait faisait la même chose sans se censurer. Et donc je me suis toujours dit, il y a un courant d'air chaud au milieu, on ne sait pas trop qui va le récupérer, mais le jour où quelqu'un va mettre la montgolfière là, ça va décoller.
Eh bien, on va parler de ce décollement qui a commencé, de cette montgolfière qui s'est envolée, après les informations, avec Geoffroy Lejeune.
Et que vous ayez regardé le discours de Villepinte hier, ou que vous ayez suivi la mue de l'essayiste en nouveau candidat, vous pouvez nous appeler au 0826 300 300 et puis poser vos questions à celui qui suit de près cette candidature, Geoffroy Lejeune.
Le parfum Terre de France, 100% des bénéfices au service de notre pays, présente...
Ici Sud Radio. Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau.
Sud Radio Berkov dans tous ses états.
Zemmour. Une tête un peu patibulaire hein, là-dessus, Geoffroy Lejeune.
Oh non, elle est très bien cette photo.
Non, elle est drôle, mais... Et de la fiction à la réalité, pas suivi avec l'élection ordinaire. Et c'est intéressant parce que vous racontez évidemment, 6 ans après, ce qui s'est passé depuis, et puis les relations que vous avez eues, et surtout une analyse de la situation. Et je voudrais qu'on parle un peu justement de ce qui s'est passé, non pas ce qui s'est passé à Villepinte, ce que pour vous signifie Villepinte, c'est-à-dire donc premier meeting et premier vrai discours, et comme d'habitude, il y va à la Kalachnikov, il y va au Karcher, il y va vraiment, franchement, ça, c'est sa marque de fabrique, il a toujours été comme ça, Zemmour. Mais est-ce qu'à votre avis, la mue s'est opérée entre l'éditorialiste connu, etc., l'essayiste, l'analyste, fabricant de best-sellers, et l'homme politique? Alors, je dis pas l'homme d'État, mais l'homme politique.
Non, mais alors moi, je vais vous répondre très clairement. Pour moi, oui, absolument. J'explique pourquoi. En fait, ça fait un mois que Zemmour patine. Les sondages étaient moins bons. Il y avait même un désarroi dans ses propres troupes, etc. J'ai réfléchi, je me suis demandé pourquoi ça marchait moins bien le mois de novembre que ce qui s'était passé entre la fin du mois d'août et le début du mois de novembre. Donc, et en fait, je pense que l'opinion a regardé Éric Zemmour pendant 2 mois, au début donc, quand ça a commencé à monter dans les sondages, comme celui qui pouvait turbuler le système, perturber un peu les choses. C'est-à-dire, on est installé dans un truc un peu désespérant, qui est l'éternel duel Macron-Marine Le Pen, on sait comment ça se termine, le match est déjà écrit. Et en fait, il est arrivé avec ses 3%, 5% dans les sondages au début, et il a commencé à déjà faire vivre le débat politique, c'est-à-dire qu'on s'est positionné pendant 2 mois sur ce que disait Zemmour.
Changer le curseur.
Voilà, changer le curseur, arrêter de parler de Covid, parce que c'était quand même deux ans qu'on se faisait bassiner avec ça, et tout à coup, il a rendu les choses à nouveau intéressantes. Et donc, l'opinion l'a regardé comme l'élément perturbateur, et elle a adoré ça, et donc elle l'a fait monter un peu de manière peut-être artificielle, mais en tout cas, elle l'a fait monter jusqu'à ces fameux 18%. Mais 18%, ça voulait dire quoi? Ça voulait dire qualifié pour le second tour, adversaire d'Emmanuel Macron. Et à ce moment-là, je pense que ce qui s'est passé dans l'inconscient collectif, c'est que les gens se sont dit, bon, est-ce qu'il va faire président? Et à ce moment-là, celui qui perturbe le système commence à faire un peu peur, parce que mince, il est très clivant, il est quand même, dès qu'il dit quelque chose, ça provoque une polémique, il peut pas se déplacer, sortir de Paris sans qu'il y ait des antifas partout. Et à ce moment-là, ça a commencé à moins marcher, je pense qu'il a commencé à un peu inquiéter. Donc je crois que l'enjeu pour lui hier, c'était justement de passer du statut de polémiste, d'agitateur au statut de candidat, et j'ai trouvé qu'il n'y avait aucune outrance dans son discours, j'ai trouvé que son discours était très structuré, ressemblait à un discours de politique, et en fait moi ce meeting de Villepinte me fait penser au grand, chaque candidat a son grand meeting, il y a eu le Bourget pour Hollande, il y a eu la Porte de Versailles pour Macron et Sarko aussi d'ailleurs, les deux, et en fait je pense que c'était son grand discours de début de campagne, et par ailleurs discours intelligent, parce qu'en fait, pouvant rassembler tous les électeurs potentiellement sensibles au discours d'Éric Zemmour, c'est-à-dire qu'en gros, c'est beaucoup plus de gens que les 15% des sondages, quoi. Il a coché toutes les cases des préoccupations de l'électorat de droite, toutes.
On a d'ailleurs compris économique, industriel, etc.
Absolument. Ouais. Et je pense qu'il a fait en sorte de dire, voilà. Mon programme, vous avez déjà voté pour ce programme. En fait, en réalité, quand vous avez voté Chirac, vous avez voté pour ça. Quand vous avez voté Sarkozy, vous avez voté pour ça. Et quand vous avez voté Fillon, vous avez voté pour ça. Sauf que les mecs le font jamais. Voilà. Et je pense que c'est le candidat des promesses non tenues, c'est sa martingale. Et en réalité, je pense que ça commence à fonctionner.
Ouais. Et d'ailleurs, on sait qu'il y a eu plus d'un million de vues du meeting, enfin de sur les chaînes info. La vidéo déjà il y a 4 jours, bien et sûr. Puis sur les chaînes info, ça a énormément joué, et sur YouTube et compagnie. Alors quand vous dites pas d'excès, mais quand même, il est allé très fort, et c'est intéressant, hein, sur Macron.
Sur Macron, ouais.
Écoutez ce qu'il a dit quand même, parce que ça c'était du jamais entendu, en tout cas, ou vu, aussi directement sur l'actuel président de la République. Écoutez.
La personne Emmanuel Macron ne nous intéresse pas, parce qu'elle est fondamentalement inintéressante. Trouvez-moi un seul Français dans le pays qui puisse expliquer la pensée d'Emmanuel Macron. Un seul. Il n'y en a aucun, pas même lui. Personne ne sait qui il est, parce qu'il est personne. Derrière le masque de la parfaite intelligence technocratique, derrière la montagne d'idées superficielles, derrière les slogans contradictoires, derrière le « en même temps », synonyme de désordre, et le « quoi qu'il en coûte », synonyme de ruine, il n'y a personne, il n'y a rien. Nous laisserons dans sa vitrine ce mannequin de plastique, cet automate qui erre dans un labyrinthe de miroirs, ce masque sans visage qui défigure le nôtre. Nous laisserons cet adolescent se chercher éternellement.
Mannequin, adolescent, il n'est rien, il n'est personne. Alors effectivement, Fabrice, l'homme et Gérard Davet avaient écrit Le Traître et le Néant, mais enfin c'était des journalistes. Là, il y va franco. Là,
non, mais c'est très violent. C'est une vraie attaque. Sauf que ce qui est intéressant, c'est, je pense qu'il a raison de n'attaquer qu'Emmanuel Macron. En fait, son vrai adversaire, c'est lui. Il est en concurrence avec Valérie Pécresse et Marine Le Pen sur l'échiquier à droite. Mais il a essayé d'ailleurs de taper sur Marine Le Pen il y a quelques semaines et ça lui a pas du tout réussi. Absolument. Donc il a raison d'arrêter en réalité.
C'est une
erreur stratégique énorme. Il parle à ses électeurs. En revanche, par contre, Macron, c'est l'adversaire ultime. En fait, ce sont deux modèles de vision de la société et de la France qui sont incompatibles et qui s'affrontent en fait dans cette élection. Donc il a raison de l'attaquer. Moi, ce qui m'amuse, c'est que, en fait, dans la concurrence à droite entre Pécresse, Marine Le Pen et Zemmour, ils font tous pareil, d'attaquer Emmanuel Macron. Sauf que si vous regardez ce qu'ils disent, Pécresse, son grand argument, c'est Macron a cramé la caisse. Ça veut dire, en creux, elle répète ça tout le temps, c'est son slogan quasiment.
Son leitmotiv.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire, je ferai pareil que lui, sauf que moi, je serai plus économe. Pourquoi pas? Mais la seule manière que Valérie Pécresse de se distinguer, c'est ça. C'est la question de la gestion budgétaire, le quoi qu'il en coûte. Marine Le Pen dit, oui, il divise les Français parce que ça a été un quinquennat de fracture sociale. pourquoi pas non plus, elle a le droit de le dire, mais ça veut dire qu'elle ne reproche à Macron que d'avoir été le président des Gilets jaunes et des affrontements communautaires qu'on connaît. Là, il arrive avec un truc global, en fait, ridiculisant presque la personne du président et remettant en cause sa légitimité, en fait. Donc, je pense qu'il a raison de taper fort. Enfin, la seule personne sur qui il doit taper très très fort dans cette élection, c'est Emmanuel Macron. Moi, je l'analyse comme ça.
Et alors, est-ce que pour vous, aujourd'hui, et vous suivez ça pour votre journal et pour le reste, Geoffroy Lejeune, le problème qui est posé quand même est très très fortement, cette droite qui représente effectivement, qui peut représenter au moins la moitié des Français, sinon plus, mais actuellement, comment, à votre avis, triompher du tout à l'ego, c'est-à-dire comment les Marine, les Zemmour, et pour prendre l'autre, les Philippot, les Dupont-Aignan, les Asselineau, les qui vous voulez, comment ces gens-là, est-ce qu'ils vont rester sur leur quant à soi, et à ce moment-là, ils sont morts. En tout cas, les chances de gagner sont... Ou est-ce qu'il peut y avoir ce qu'a fait mutadis mutandis, comparaison les parisons, et il avait beaucoup plus d'années, Mitterrand, avec le programme commun. On sait que Mitterrand haïssait les communistes, que les communistes haïssaient les Mitterrands, il les a plumés comme une volaille, mais il a fait ce programme commun. Est-ce que c'est possible, à votre avis, en 3 mois, c'est dans 4 mois les élections, est-ce que c'est possible à droite ou pas?
Non, je pense que c'est pas possible, et je pense que ça n'arrivera pas, mais vous avez raison, c'est le tout à l'ego. En fait, on sait que Zemmour ne se rangera pas derrière Marine Le Pen ne se rangera pas derrière Zemmour, et encore moins avec Valérie Pécresse, ça n'arrivera pas. Maintenant, je pense que les électeurs vont le faire. Je pense que les électeurs vont décider d'en éliminer deux, en fait. D'ailleurs, c'est absolument certain. Il y en aura, si la droite a un représentant au second tour, et je crois pas au second tour Pécresse-Marine Le Pen, j'y crois pas trop. En revanche, donc, je pense que
il y aura quelqu'un de droite au second tour.
Je pense quand même, ouais. Vu l'état du pays, etc. Mais ouais. Ce qui est amusant, puis surtout vu l'état de la gauche, en fait, c'est surtout ça, la comparaison, que c'est quand même assez plausible. Et en fait, je pense que les électeurs vont faire ça. C'est-à-dire que dans toutes les élections présidentielles, il y a un moment où s'active la mécanique du vote utile. Et ben, elle va jouer à droite à plein. Je pense. C'est-à-dire que, en fait, je ne sais pas qui, mais je pense que les électeurs vont dire à un moment donné, on donne ça une nouvelle chance à Marine Le Pen et elle va être notre représentante au second tour. Ou alors, on choisit la droite de gouvernement, Valérie Pécresse, elle est très convaincante, etc. Vous aurez bien compris que je crois pas trop à ces deux options. Moi, je pense qu'Éric Zemmour a réussi une telle percée qu'aujourd'hui, il est central. Et je pense que, même s'il ne rallie pas Marine Le Pen et Valérie Pécresse encore moins, évidemment, je pense qu'à un moment donné, ce qu'il va faire, c'est qu'il va convaincre leurs électeurs en masse. Et après, il y aura quelque chose qui va se passer, et ça, pour le coup, je vous signe, il y aura des mouvements à l'intérieur des partis. C'est-à-dire qu'il y a des gens du Rassemblement National qui vont quitter le Rassemblement National parce qu'ils vont penser, ils pensent qu'il n'est plus la solution, l'outil adapté pour changer les choses. Il y a des gens à droite qui, aujourd'hui, n'ont plus rien à faire dans la famille politique, les Républicains, surtout quand on voit le traitement qui a été réservé dans l'entre-deux tours, qui a duré 2 jours, mais quand même, à Éric Ciotti, qui s'est fait un peu abandonner par tout le monde, alors qu'il représente 40% des électeurs de ce congrès. Bon, en fait, moi je compare ça avec ce qui s'est passé avec Macron en 2016. Macron, sa grande force en 2016, c'est qu'il arrive et qu'il abat le mur de l'hypocrisie, en fait. Ça fait des années que la gauche danse du ventre en disant on est libéraux mais on sait pas, mais en même temps on est contre le monde de la finance. Et lui, il arrive en disant voilà, maintenant la gauche c'est social-démocrate, progressiste, c'est le retour de Strauss-Kahn, et au moins il clarifie les choses. Et ben, il a attiré les électeurs qui aspiraient à ça. Moi, je pense que Zemmour fait la même chose.
Strauss-Kahn, c'est moi, à l'époque.
Exactement. Exactement. Et je pense que Zemmour fait la même chose à droite. C'est vous en avez marre de vous faire avoir, j'arrive et venez. Et en fait, ça marche. Ça a marché depuis le début parce qu'il y avait une demande.
Et juste un mot, vous parlez des électeurs, etc. Geoffroy Lejeune, est-ce qu'il n'y a pas, il risque pas d'y avoir un mouvement chez les abstentionnistes qui étaient de plus en plus nombreux, vous le savez, dans les dernières élections. Est-ce que quelqu'un comme Zemmour ou autre ne peut pas, en étant clivant comme il est, ne peut pas ramener, ou en tout cas attirer vers lui, mais peut-être pour d'autres aussi, les abstentionnistes, en tout cas un certain nombre qui disaient, mais c'est plus la peine, ce jeu, il est pourri, il est pipé, c'est du pipeau, ça ne m'intéresse pas.
Bah, en fait, je pense que Zemmour a fait beaucoup de bien à ce niveau-là. Ça lui bénéficie pas forcément à lui d'ailleurs, mais en fait, en remettant de la politique dans le débat public, la politique au sens noble du terme, c'est-à-dire de la controverse, des vraies discussions sur l'histoire de France,
le vrai enjeu, le destin,
la survie de la France, etc. En mettant ces discussions-là, en fait, au centre du débat public, il a empêché les autres de faire ce qu'ils faisaient, en fait, c'est-à-dire de ne pas en parler, de faire comme si ça n'existait pas. Donc, on a eu une primaire de la droite zémourisée, on a parlé des thèmes d'Éric Zemmour.
Ils sont surtout rangés derrière.
Et exactement, thèmes, ils en ont parlé, en tout cas. Emmanuel Macron, vous ne croyez pas qu'il s'est réveillé un matin de l'automne 2021, en se disant, tiens, je vais taper les Algériens sur les visas. C'est parce que Zemmour est arrivé en mettant cette idée dans le débat public qu'il a été obligé de bouger. Donc en fait, à cette aune-là, puisqu'il est, il a préempté un peu les grands thèmes de cette élection présidentielle, je pense qu'il va réintéresser des gens à la politique, mais ça peut bénéficier à Mélenchon, des gens qui vont se mobiliser parce qu'ils auront peur de Zemmour, ça peut bénéficier à Macron parce, pour les mêmes raisons. Mais je pense que normalement.
Mais ça peut faire bouger, ce qui est une bonne chose.
C'est une très bonne chose.
Les gens vers les urnes.
C'est une très bonne chose. En fait, le niveau d'abstention des régionales du printemps dernier est juste une honte en fait pour notre démocratie. Et je me souviens très bien, tout le monde était d'accord pour dire il faut reparler de politique en fait. Et Zemmour est arrivé, c'est ce qu'il a fait. Donc je vous signe que l'abstention à la présidentielle ne sera pas aussi désastreuse qu'on aurait pu l'imaginer.
On va continuer à parler de ça avec les auditeurs de Sud Radio.
Et ne vous abstenez pas de nous appeler au 0826 300 300, vous prendrez la parole tout de suite.
Le parfum Terre de France, 100% des bénéfices au service de notre pays, présente.
Ici Sud Radio. Les Français parlent aux Français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites.
Sud Radio Berkov dans tous ses états.
Et nous restons en Ile-de-France puisque nous parlions de Villepinte. Nous sommes avec Olivier qui nous appelle au 0826 300 300. Bonjour Olivier.
Oui, bonjour, bonjour Olivier.
Et bonjour Geoffroy Lejeune.
Bonjour.
En fait, moi j'ai regardé hier le meeting d'Éric Zemmour et j'avais l'impression d'avoir un Trump à la française. Et dans un sens, c'est pas mal parce qu'en fait, il fait bouger les lignes et c'est ce qui est intéressant par rapport à la politique actuelle qui était, comme on dit, un somnifère permanent depuis à peu près une vingtaine d'années. Mais c'est vrai que, comme moi j'apprécie, c'est vrai, Éric Zemmour, je me dis, est-ce qu'il commence pas à avoir les chevilles qui commencent à gonfler? Parce que le risque, c'est quand même, il est entouré d'une bande de personnes compétentes, de jeunes. On l'a poussé énormément, je dirais, à se présenter à un moment donné. Et il faut aussi, peut-être, à un moment donné, je dirais, relâcher un peu la pression. Qu'est-ce que vous en pensez?
Geoffroy Lejeune.
Moi, je pense que ce que vous dites était absolument vrai il y a encore trois jours. C'est-à-dire que, en gros, les problèmes que vous venez de pointer là, je les ai ressentis aussi, et on les a vus, et ça a terminé sur la séquence de Marseille, en fait, qui était une séquence relativement ratée, pas uniquement par la faute de Zemmour d'ailleurs, aussi beaucoup à cause des antifas, et en fait, ce côté un peu isolé, en effet, entouré de gens qui bossent pour lui, hein, qui bossent pour sa campagne, donc forcément, qui disent pas beaucoup de mal et qui sont pas très critiques, etc. Et en fait, à Marseille, il a vu comment il pensait vraiment que ça serait un déplacement non pas triomphal mais une grande, non, il aurait dû faire un grand meeting, il pensait qu'il allait visiter les quartiers nord et qu'il allait en sortir quelque chose d'incroyable, et en réalité rien de tout ça ne s'est passé. Et là il a commencé à se dire ok, je vais écouter un peu autour de moi, je vais prendre des avis contradictoires, je vais demander à des gens qui vont me rentrer dedans ce qu'ils en pensent. Donc en fait le meeting d'hier, il vient sanctionner un peu une semaine de remise en cause pour Éric Zemmour. Et d'ailleurs on voit bien, il a changé pas mal de choses dans la forme, dans la manière de parler.
Il a mis des lunettes.
Alors ça, je crois que c'était lié au prompteur, parce qu'en fait il a parlé en regardant son prompteur, et il pouvait pas le faire sans lunettes. Mais ce que je veux juste vous dire, c'est que je pense que, en gros, le Éric Zemmour du sommet des sondages il y a un mois aurait probablement fait un meeting très trumpien, très arrogant peut-être, et peut-être très agressif, y compris avec Marine Le Pen, on en parlait tout à l'heure, ou avec ses adversaires potentiels. Et là il y a une forme de sobriété qui est venue. Il a été sur le fond assez clair, et il a rien renié de ce qu'il avait dit avant, mais je pense que il a essayé de montrer qu'il était en fait un personnage sérieux, crédible, et surtout qu'il avait vraiment envie d'être président de la République.
Et une dernière chose, je voudrais demander à Geoffroy Lejeune, si c'est possible, André Berkoff.
Oui,
en fait, moi, je suis la campagne présidentielle française, et mon épouse est chilienne, et elle suit parallèlement au Chili ce qui est en train de se passer actuellement. Il y a des points communs, des vases communs, puisque en mi-décembre prochain, on va avoir normalement le nouveau président élu au Chili. C'est déterminant, c'est une élection qui est capitale, il faut clairement le dire. Le dernier académicien qui a été élu à l'Académie française.
Olivier, on va pas trop parler du Chili, excusez-moi, il y a beaucoup de gens qui attendent, vraiment. Olivier, vous nous parlez toujours du Chili et de votre épouse chilienne,
je vais mettre en contact avec Geoffroy Lejeune pour en parler s'il a.
Ah bah, il n'y a pas de problème.
Et
pas de problème.
Je peux me mettre en contact avec lui, c'est pour ça.
Geoffroy.
Envoyez-moi un mail, vous trouverez mon adresse mail sur internet sans aucun problème, ou alors vous envoyez au standard de Valeurs Actuelles, et vous inquiétez pas.
Parce que c'est intéressant, j'ai des infos à lui donner, voilà.
Ah, tout complètement, alors vous écrivez à Valeurs Actuelles et il vous répondra tout à fait, vous lui envoyez un mail là-dessus. Je voudrais juste dire quelque chose, parce qu'Olivier, vous avez raison, à propos de Trump quand même, moi j'ai été assez frappé, ayant suivi, comme vous savez, mais Trump, il y a quatre choses quand même, très rapidement, qui me frappent. Alors évidemment, comparaison n'est pas raison, Zemmour n'est pas un milliardaire américain, et Trump n'est pas un éditorialiste français, mais ils ont été tous les deux, ils sont dans le système, ça veut dire que Zemmour était un dans le dans l'establishment journalistique reconnu, etc. Trump était dans l'establishment financiero business avec milliardaire de l'immobilier. Mais tous les deux, je me rappelle Trump me disant les politiciens pourris, etc. Et on sait ce que Zemmour pense d'un certain nombre de politiques. Donc, vrai, première chose. Deuxièmement, très intéressant, ils doivent leur notoriété quand même à la télévision. Zemmour, 5 ans chez Ruquier et CNews, et Trump avec The Apprentice, qui a fait qu'il a été connu dans l'Amérique entière. Les milliardaires, il y en a beaucoup. Troisièmement, leur l'oralité, comment ils troncent leurs interlocuteurs. On a vu dans les débats que Zemmour, c'est très difficile de le contrer, on le sait depuis longtemps. Et Trump, comment il avait contré ses concurrents républicains à la primaire, était tout à fait... Et puis, cinquièmement, le traitement avec les journalistes. C'est-à-dire qu'ils y vont franco, chacun d'entre eux. Trump ne fait pas un meeting sans dire ces journalistes qui... Et Zemmour, il y a vraiment quelque chose d'assez proche dans la manière dont il parle franco de port à cette France-là, d'abord, peut-être pas périphérique, mais quand même France des délaissés et Trump aussi.
Je suis absolument d'accord avec tout ce que vous venez de dire, vraiment tout. J'ajoute juste un truc. Zemmour s'est trumpisé hier, mais on l'a pas vu, on s'en est pas rendu compte. Il a fait un truc que Trump faisait tout le temps. Et Zemmour, ça fait 2 mois, ça fait même 15 ans, qu'il parle de lui. Il vient défendre ses bouquins, il défend ses idées. Il dit je. Et hier, pour la première fois, il est passé du je au vous. Il a dit il me déteste parce qu'il vous déteste. Et cette phrase, pour moi, elle résume énormément. Vrai. Et Trump faisait ça tout le temps.
Tout le temps.
Je suis votre porte-voix. Je suis voilà. Et je pense que on a dit que son discours était plus sage, entre guillemets, que les précédents, mais ce truc-là, profondément, c'est Trump. Et je pense que c'était d'ailleurs une des clés du succès de Trump.
Très, très, oui, absolument. Augustin.
Eh bien, écoutez, on va se retrouver dans un instant. Vous continuez à nous appeler au 0826-300-300 pour parler d'Éric Zemmour.
Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau.
Sud Radio Berkov dans tous ses états.
Et nous partons tout de suite dans les Landes avec Marie. Bonjour Marie.
Bonjour oui, Marie.
Bonjour Monsieur Berkov, bonjour Monsieur Lejeune.
Bonjour.
Alors, une question. Apparemment, Éric Ciotti ferait un accord avec Valérie Pécresse sur la sécurité et l'immigration, auquel ce sont ses sa tasse de thé, et il est intransigeant à ce sujet. Mmh. Alors, la question que je me pose, tant qu'Éric Ciotti fait ami-ami avec Valérie Pécresse, est-ce que les électeurs d'Éric Ciotti vont-ils croire à cette alliance, parce que Valérie Pécresse jusqu'à présent n'était pas du tout sur cette ligne, étant donné qu'elle veut préserver les électeurs qu'elle a sur la droite et le centre. Alors, n'est-ce pas là une partie de la clé pour Éric Zemmour d'être au second tour avec les électeurs d'Éric Ciotti qui ne croiront pas les promesses de Valérie Pécresse? Et maintenant, comment Éric Zemmour, pour être présidentiel, va-t-il faire appel à la jeunesse française?
Alors, je vais vous répondre sur Ciotti et Pécresse. Il a déjà commencé. Il a commencé hier. Il a fait applaudir, il a fait ovationner Éric Ciotti dans son propre meeting. Et il a dit exactement ce que vous venez de dire. C'est-à-dire, il a dit, voilà, maintenant, arrêtez de croire aux fausses promesses des gens comme Valérie Pécresse, qui ne tiendront jamais ce qu'ils vous font croire. Je sais pas ce que fera Éric Ciotti. Je pense qu'Éric Ciotti n'a plus sa place aux Républicains, au sens où les Républicains ont choisi comme candidate. Enfin, sa ligne politique n'est plus représentée. Et d'ailleurs, il y a d'autres gens qui sont dans la même situation. Il y a Julien Aubert qui est souverainiste et Valérie Pécresse ne l'est pas. Il y a François-Xavier Bellamy qui est conservateur et Valérie Pécresse ne l'est pas. Tous ces gens, en réalité, ne sont plus en cohérence avec leur étiquette politique. Donc, ils feront après ce qu'ils veulent. En revanche, ce dont je suis certain, c'est que les gens qui votaient pour les Républicains parce qu'il y avait ce genre de personnalité, à mon avis, cette fois-ci, vont arrêter. Voilà, je pense.
Merci beaucoup, Marie. D'ailleurs, vous avez fait un lapsus assez drôle. Vous avez dit Éric Zemmour.
Qui sera peut-être candidat à la présidence, je ne sais pas.
Nous sommes avec Christian qui nous appelle du Médoc. Bonjour, Christian.
Oui, bonjour Christian.
Bonjour André.
On vous écoute, Christian.
On s'est appelé il y a quelques temps. Rappelez-vous, André, je vous avais parlé de l'affaire Colmendi avec son ami. Bon, bref. Aujourd'hui, si j'appelle, c'est que hier, j'ai regardé le débat, j'ai regardé le meeting d'Éric Zemmour. pour qui je voterais avec beaucoup de franchise. J'ai trouvé que c'était extraordinaire ce qu'il avait fait, parce que quand on a tout ce qu'on a entendu cette semaine au sujet des journalistes, excusez-moi André, je trouve quand même que dans le milieu des journalistes, il y a quand même une sacrée pétolière quand même, parce que les gens vivent sur le système financier, comme il l'a dit, parce que ça, j'aurais préféré qu'il le dise en parlant qu'il y avait les subventions de l'État qui étaient versées dans les journaux. Rappelez-vous André, moi j'ai 72 ans, je me rappelle de l'affaire Air 100, vous savez, du côté de Corbeil-Essonne, qui avait racheté des journaux où il y avait eu des grèves, parce que c'est vrai qu'on monopolisait la presse. Et je voudrais dire à M. Lechon, que j'aime beaucoup, que j'ai regardé souvent à la télévision, et on voyait qu'on l'avait condamné, qu'on lui avait fait un procès pour une histoire de racisme, je ne me rappelle plus, depuis quelques temps. Et comme c'est un garçon qui est très bien, et je savais qu'il soutenait Éric Zemmour. Moi, André, aujourd'hui, pourquoi j'ai essayé de le joindre, parce que ça me scandalise, c'est qu'hier, avant-hier, on a complètement détruit Éric Zemmour, comme il parlait hier. Il a parlé très bien, il n'a pas parlé comme De Gaulle. André, je ne vous ai jamais parlé de mon enfance. J'ai habité Vichy. Écoutez bien, André. Ouais. Vous pouvez m'appeler quand vous voulez. Ma maman adoptive, écoutez bien, habitait rue du Maréchal Joffre. Écoutez bien. Son grand-père avait créé la Mondiale à Vichy. Mmh. Et tous les lundis, Monsieur Laval venait au bureau voir le grand-père en lui disant « Tu planques tout, parce que l'autre, il vient nous voir. » Écoutez bien, André. Eliane est décidée, était un maman adoptif que j'aimais beaucoup, me raconter la vie, et elle m'avait fait en cadeau. Écoutez, ça, faut
allez-y,
revenir.
Allez-y,
parce que c'est pour dire à M. Le Jeune. Elle avait hérité de la croix de Lorraine qui avait été remise à sa grand-mère, et qui lui est revenue. Et cette croix de Lorraine, c'est son oncle Copé qui était sur le Suffren en 1918.
Mais je vois pas le rapport. Non, c'est très bien. Avec ce qui nous occupe aujourd'hui. Excusez-moi. Je comprends mais quel est le rapport avec le meeting de Villepinte, etc.
Eh ben écoutez, le meeting de Villepinte, moi ce qui me plaît dans son meeting, il n'a pas fait de propagande comme tout le monde avait l'air de dire, c'est un gaulliste, c'est quoi que ce soit. Non, ce qu'il a dit, c'est la vérité, c'est la sincérité. Et je crois qu'aujourd'hui, personne n'est capable de droite d'avoir une sincérité comme a eu Éric Zemmour. Et moi ce que je souhaite, c'est qu'on change complètement de système politique, qu'on revienne un petit peu aux fondamentaux de ce... Moi, j'étais pas connu parce que j'ai jamais été un enfant heureux et riche, malheureusement. Mais ce qui est grave, c'est que vous avez Madame Pécresse que j'ai écoutée ce matin, qui s'est permis de faire des phrases qui ne correspondent à rien du tout.
Oui, là, je comprends. Vous en tout cas, vous avez voté Éric Zemmour. C'est ce que vous êtes sûr de ça.
Ah oui, j'en suis sûr. Je ne changerai pas de même s'il arrivait quelque chose qu'on lui reproche quoi que ce soit, je voterai Éric Zemmour, André.
D'accord, voilà. merci de votre témoignage. On va en reparler de tout ça parce que vous savez, pendant 3 mois ou 4 mois, et vous aurez l'occasion et vous nous téléphonez et vous continuez à nous parler. Augustin.
Merci Christian pour votre appel. Nous sommes maintenant avec Luc qui nous appelle du Val-de-Marne. Bonjour Luc.
Oui, bonjour Luc.
Bonjour Monsieur Berkoff. Bonjour Monsieur Lejeune. Par honnêteté, je dois vous dire que je fais partie des amis d'Éric Zemmour depuis le tout début. Je suis un petit peu dans l'expectative parce que bien évidemment, comme beaucoup, je souhaite une victoire d'Éric Zemmour. Tous les thèmes qu'il développe me sont miens. Par contre, là où j'ai un petit peu peur, c'est que Marine Le Pen ou Éric Zemmour arrivent au deuxième tour. Je pense que ça sera le cas, je l'espère. Il n'en demeure moins que la suite est quand même plus dramatique.
C'est-à-dire,
je lis dans Challenge de cette semaine que Éric Woerth, donc DLR, n'exclut pas un accord avec la REM pour les législatives en cas de victoire de Macron à la présidentielle.
Oui. En cas de victoire de Macron, la République en marche et LL s'uniraient, oui.
Voilà, c'est dans le challenge de cette semaine. Oui. Bon, challenge, c'est la propriété de Bernard Arnault, LVMH, qui est un macroniste de poids.
Auparavant, juste, Luc, il y a la présidentielle auparavant.
Oui, c'est ça le problème, c'est là où je veux en venir. Oui. Là, je viens d'entendre sur CNews que Éric Ciotti vient de dire qu'il ne rejoindrait pas Éric Zemmour. Donc, partant du principe que seule la victoire est belle et que on fait tout ce qu'il faut, enfin des gens comme moi pour faire partir M. Macron avec ses indigénistes, son wokisme, son mondialisme et tout ça. Que faire ? Que faire ? Continuer à voter Zemmour ou Marine Le Pen au choix ? Enfin, pas au choix, mais ça dépend des gens. Et prendre le risque d'être sûr à 100% quasiment de se retrouver avec Macron, ou faire confiance, ce qui est un oxymore, à Valérie Pécresse. Que faire ?
D'accord. Alors bonne question, Geoffroy Lejeune. En fait, il dit oui. En fait, ce que dit Luc quelque part, il dit oui, mais Éric Zemmour ou Marine Le Pen, est-ce que ça ne signe pas aussi la victoire de Macron ? Valérie Pécresse. Alors que faire, dit-il ?
Faut regarder, on a un petit élément quand même pour se positionner, c'est les enquêtes d'opinion et notamment les sondages aussi sur la présidentielle. On va bientôt savoir ce que Valérie Pécresse pèse face à Emmanuel Macron au premier tour, mais pour moi c'est un peu la même chose. Je pense que aucun des candidats, ni Marine Le Pen, ni Éric Zemmour, ni Valérie Pécresse, ne bat pour l'instant Macron dans un sondage. Donc entre guillemets, ça libère les gens, et notamment vous avez fait allusion à Ciotti, à son positionnement de soutien à Valérie Pécresse. Ça libère les gens et notamment ces électeurs-là, les électeurs qui pensent comme ça à les Républicains, pour choisir un champion. Donc je pense que honnêtement, je pense que on arrive dans un moment où les jeux d'appareil vont avoir encore moins d'importance qu'ils n'en ont eu auparavant. Je pense que les gens sont matures, que les gens se sont suffisamment, mais c'est vrai d'ailleurs aussi à gauche, suffisamment fait balader par les gens pour qui ils ont voté quand ils ont voté pour des partis de gouvernement, dits de gouvernement, pour aujourd'hui reprendre leur liberté et faire ce qu'ils ont décidé de faire. Et donc honnêtement, la présidentielle n'est pas pliée, hein, pardonnez-moi, mais avoir des candidats qui sont entre 40 et 48% au second tour face à Emmanuel Macron, il n'est pas sûr d'être élu non plus.
Et puis, faut pas oublier la chose, oui, là je vais dans le sens de Geoffroy Lejeune, c'est que je crois que la chose la plus importante, c'est que les gens n'obéissent plus à leur leader de parti.
Bien sûr, évidemment.
Il n'y a plus ça, c'est-à-dire qu'avant c'était le cas pendant très longtemps, mais là c'est fini. Et n'oubliez pas que le fait de s'alimenter sur les réseaux sociaux, un peu partout, sur les sources les plus diverses, aujourd'hui la loi de l'offre est énorme, elle dépasse la demande, donc on peut espérer que les gens, effectivement, se réfléchissent un tout petit peu avant de suivre aveuglément tel ou tel ou tel.
Merci Luc pour votre appel. Nous sommes maintenant avec Jacques qui nous appelle de Valensole dans les Alpes de Haute-Provence.
Oui Jacques, bonjour.
Ah bonjour.
On vous écoute Jacques.
Oui, simplement je voulais signaler que il y a quelque chose dans le discours d'Éric Zemmour qui a été dit hier et qui n'est pas relevé par les éditorialistes et les journalistes, et ça m'étonne beaucoup.
Oui.
Parce que c'est très important. C'est la volonté de sortir du commandement intégré de l'OTAN. Or, à ma connaissance, il n'y a que Mélenchon et Roussel qui le veulent, et moi je suis tout à fait d'accord avec ça d'ailleurs, mais ça me paraît très important à un moment où l'atlantisme de notre président et de toute la classe politique est patent, et où l'aventurisme de M. Biden, excusez-moi du peu, hein, quand on voit les tensions qui sont entretenues en Irak, dans la mer de Chine, en Ukraine, etc. Bon, ça mérite tout de même d'être relevé, d'être réfléchi dans une campagne électorale. Voilà, c'est bon.
D'accord. Je suis sur l'OTAN.
Vous avez raison, ça n'a pas été très remarqué. En réalité, c'est parce que je pense que Zemmour le dit depuis 15 ans. Il l'a beaucoup dit quand il n'était pas encore politique, mais il a critiqué le retour de la France dans le commandement intégré de l'OTAN à l'époque où Sarkozy l'avait décidé. Et depuis, il n'a cessé de dire qu'il faudrait en sortir. Donc, il y a beaucoup d'éléments d'ailleurs du programme de Zemmour qui ne sont pas repris ou qui font pas beaucoup de bruit, etc. Parce qu'en fait, on l'entend depuis toujours dire ça. Maintenant, moi, je suis d'accord avec vous. Je pense que c'est une bonne solution. Et je pense que la raison pour laquelle ça n'a pas fait beaucoup de bruit, c'est parce que ça n'était en fait en réalité pas très surprenant dans la bouche d'Éric Zemmour. Et vous avez raison de dire
que beaucoup de gens ne connaissaient pas l'Éric Zemmour d'avant.
Et bien, c'est vrai. Mais c'est pour ça que nous, journalistes, comme on s'est habitués, on le connaît un peu, on l'a lu, on l'a commenté beaucoup, etc. Donc voilà, maintenant, il va y avoir quelque chose. Et là, pour le coup, je pense que ça sera un Zemmour qu'on ne connaît pas encore. C'est qu'il y a 300 pages de programmes qui sont prêtes et qui vont être publiées bientôt au fur et à mesure de la campagne. Et là, pour le coup, je pense qu'on va découvrir des choses parce qu'il y a plein de sujets sur lesquels on ne le connaît pas bien, l'industrie, l'écologie, etc., etc. Et là, ça va devenir très intéressant.
Il avait d'ailleurs précisé hier que nous n'étions pas les serviteurs des Américains.
Absolument.
Il aime souvent le rappeler. On se retrouve dans un instant. Vous nous appelez au 0826 300 300.
Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites.
Sud Radio Berkov dans tous ses états.
Dernier quart d'heure de cette émission, nous parlons d'Éric Zemmour et nous sommes avec Régis qui nous appelle de Châtenay. Bonjour Régis.
Oui, bonjour Régis.
Oui. Bonjour à vous tous. Oui, ma question c'était de savoir, Éric Zemmour, est-ce qu'il est pour ou contre le vaccin et le pass sanitaire et autres? Parce qu'on n'en entend pas du tout parler de ce côté.
Oui, bonne question, Régis. C'est vrai que beaucoup de gens, et on reçoit aussi à Sud Radio des tweetos et des gens qui lui disent oui, hein, c'est très bien, mais il est extrêmement discret sur l'affaire du gestion du Covid, passe sanitaire et compagnie.
Alors, moi, je peux expliquer pourquoi. Si les gens ont parlé avec lui cet été, on a
interviewé dans Valeurs Actuelles là-dessus. Intéressant, ouais,
bah, en fait, il est discret pour deux raisons. La première, c'est qu'il en a strictement rien à faire. Il s'en fiche complètement. C'est-à-dire que le côté.
Ça n'intéresse pas,
le vaccin. Je parle du vaccin.
Le vaccin. Ah, ouais. D'accord.
Il est vraiment complètement désintéressé du truc. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, etc. Il s'en fiche complètement. La deuxième, c'est qu'il a compris très vite que c'était un suicide politique d'en parler. Et je vais raconter une anecdote pour expliquer ça.
Ouais.
Florian Philippot, qui est le leader un peu des antipasses tous les week-ends dans la rue à Paris. D'accord.
Ouais.
Et qui courageusement en fait a pris la tête de ce combat. Mais Florian Philippot est par ailleurs un très bon connaisseur des sondages. Il est absolument conscient. Je lui ai posé la question une fois, il m'a répondu ça. Il est absolument conscient du fait que politiquement, il ne peut rien en tirer de bon. Et en fait, du coup, Zemmour, en fait, pour résumer sa position, le vaccin, il s'en fiche. Il s'est fait vacciner très vite d'ailleurs, et il est pas du tout contre le vaccin. Et en revanche, par contre, il est contre le pass et il est très inquiet de l'aspect liberticide de la manière dont cette pandémie est gérée. Ça veut dire que en gros, il y a deux angoisses chez lui. C'est premièrement pourquoi on est les seuls, les Français, à pas avoir fait de vaccin, pourquoi les Américains l'ont fait avant nous, pourquoi les Allemands l'ont fait avant nous, pourquoi les Russes l'ont fait avant nous, et nous, qu'est-ce qu'on pèse là-dedans? Donc il l'a vécu comme une humiliation, disons, stratégique, mais pas du tout comme un danger pour la santé, etc. Il s'est fait vacciner donc très tôt. Et la deuxième chose, c'est que par contre, il est contre l'aspect liberticide de tout ce qui a été fait pendant le Covid, c'est-à-dire pas uniquement le pass sanitaire, même le confinement, il était contre, les couvre-feux, etc. Et donc d'ailleurs, c'est pour ça qu'il a dit il y a peu de temps qu'il abrogerait le pass sanitaire s'il était élu. Et donc voilà pour résumer la position d'Éric Zemmour. Mais en fait, pourquoi il en parle peu? C'est parce que comme c'est électoralement un peu compliqué et que lui a décidé de faire de sa campagne surtout une campagne axée sur la survie de la France et donc notamment la question de l'immigration, il a décidé de pas se laisser polluer par les trucs annexes qui peuvent vous coûter des voix alors que vous êtes convaincant sur ce sujet.
Oui, c'est un gros problème parce qu'en même temps c'est paradoxal, c'est vrai, sauf que ça occupe énormément parce que bah, c'est la
sûr.
Santé, ça occupe comme et le vrai problème d'ailleurs, c'est intéressant parce que pour le moment on peut enfin comprendre ou pas comprendre, mais à mon avis, il va être obligé d'en parler à un moment donné, d'ici un mois ou deux mois.
Je suis absolument d'accord, mais je pense que quand il va en parler, il va en parler de manière assez dépassionnée. Finalement, il aura une position un peu équilibrée en disant le vaccin, pourquoi pas, ça aurait été mieux s'il était français, mais tant pis. Le pass sanitaire, c'est fini, et vaccinez-vous si vous voulez éviter les formes graves. Mais c'est pas un agité covidiste, c'est sûr.
Il va pas faire sa politique là-dessus et sa campagne là-dessus, c'est clair.
Et il fait des meetings sans pass sanitaire, d'ailleurs.
Ouais. Nous sommes avec Françoise qui nous appelle de Bordeaux. Bonjour, Françoise.
Françoise, bonjour.
Bonjour. Oui.
On vous écoute, Françoise.
Oui, alors, hier j'ai écouté le discours d'Éric Zemmour. Je l'ai entendu parler de la reconquête de la France pour les 1000 ans à venir.
Mm-hmm.
Et les 1000 ans à venir, c'est les 1000 ans du Troisième Reich, je pense.
Ah bon? Je ne vois pas très bien le rapport. Vous voulez dire que 1000 ans à venir, c'est quoi? La France Uber à l'Est? La France qui va conquérir le monde? Je ne vois pas très très bien. Ça, vous avez écouté Cohn-Bendit hier, c'est ça?
Madame, moi j'ai entendu la même chose honnêtement hier soir dans un débat à la télévision.
C'est pas un hasard quand même, 1000 ans, c'est pas un hasard. On peut dire, 300 ans, 400 ans.
Non, il a dit, attendez madame, ce n'est pas pour défendre Zemmour. Il a dit 1000 ans, il a commencé par dire, il faut citer toute la phrase.
Les 1000 ans.
Et la France existe depuis 1000 ans, et la France, on pense, existera dans 1000 ans. Je crois que vraiment, comparé au Reich millénaire de Hitler, ça me paraît quand même un peu
Je pense que
rapide.
Tout ce qu'il dit est très réfléchi, tous les mots sont pesés. D'ailleurs, il y a eu de gros applaudissements du côté du public Génération Z. Je ne pense vraiment pas que parler de 1000 ans, bon, quand il parle des 1000 ans, en effet, il y avait le passé. C'est pas 1000 ans d'ailleurs, hein, c'est 2000 ans.
Donc, 1500.
Il faisait un parallèle.
Oui, mais
madame,
voilà. C'est Hitler, quand il parle du Reich millénaire, il disait beaucoup d'autres choses sur le surhomme et le sous-homme. Et je ne sache pas, franchement, on peut pas accuser Éric Zemmour de marcher sur les pas de Hitler.
Moi,
ça me paraît
personne.
Un peu. Si, c'est ce que vous dites, madame.
Je n'accuse absolument personne.
Oui.
Je souligne quelque chose qui peut passer inaperçu, mais qui, par contre, est clairement, je pense que c'est quelqu'un qui pèse ses mots. clairement été destiné à ces militants qui ont parfaitement entendu. Et donc, c'est quand même un signal fort et une référence qui n'est pas un hasard.
Eh bien, écoutez, chère madame, vous avez les lectures, vous avez tout à fait droit à vos lectures et chacun a ses interprétations.
Ça, c'est pas une interprétation, c'est
si,
en
madame,
effet
c'est une interprétation parce que vous comparez avec Hitler, comparez Zemmour avec
Je
Hitler.
Je n'ai jamais parlé d'Hitler,
mais si,
j'ai
vous avez...
dit...
Vous avez dit le Reich millénaire, madame. Vous avez commencé votre intervention en parlant du Reich millénaire, madame. Allons, voyons.
Oui.
Eh ben alors, alors ne dites pas que vous ne comparez pas. Enfin, écoutez, madame, il faut être cohérent dans ce qu'on dit, un tout petit peu.
Parce que Milan, vous me dites que c'est complètement un hasard qu'il ait employé le terme.
Mais non, je vous dis par rapport à Milan. Bon, écoutez, madame, on ne va pas en discuter 10 ans. C'est très bien. Chacun a son interprétation. Je serais content que. Bon, écoutez, c'est ridicule.
C'est un hasard.
C'est évidemment, mais c'est évidemment. Un hasard,
c'est
madame.
Hasard.
Il ne faut pas projeter vos fantasmes là-dessus, chère madame. Je vous assure. Voilà.
Très bien.
Merci
Moi,
en tout cas.
Moi, j'aimerais que les journalistes restent des éditorialistes qui, d'abord, je ne suis pas très contente qu'on me parle de fantasmes. J'entends quelque chose.
Très bien, madame. Mais je vous ai dit, madame, vous êtes libre de votre interprétation. On ne va pas en rester...
Ce n'est pas une interprétation.
Écoutez, madame, on en reste là. Vous avez droit à votre interprétation et arrêtons là.
Je pensais quand même
Allez,
pas
au revoir, madame.
À une réaction aussi violente.
Mais écoutez, Merci. Excusez-moi, je trouve qu'il y a des comparaisons qui sont obscènes et je le dis. Voilà.
Je peux dire quelque chose. Moi, ça, ce qui m'amuse, pardon, madame, c'est que déjà les gens qui n'aiment pas Éric Zemmour, mais ça vaut en général pour tout ce qui se situe à droite d'Emmanuel Macron, passent leur vie à fantasmer, à inventer des intentions cachées qu'on n'oserait pas assumer, etc. Et tout ça, toujours en voyant des références. Moi, honnêtement, la référence des 1000 ans, je la connaissais pas, je vous jure. J'ai entendu ça hier, on me l'a dit ça sur un plateau de télévision. Je ne connaissais pas cette chose-là. Donc, je constate deux choses. C'est que vous êtes des complotistes, puisque vous passez votre vie à imaginer des choses qui n'existent pas. Je veux dire, Zemmour, il parle, il écrit, etc. Si vous voulez le critiquer, il y a tout sur la table. Mais vous allez imaginer quelque chose qu'il n'a jamais dit, premièrement. Et la deuxième chose, c'est que les gens de gauche, en général, sont des ultra spécialistes extrêmement pointus du nazisme. Je veux dire, il y a une fascination incroyable, presque morbide. Vous voyez des références que personne ne connaît. Et surtout, sûrement pas les militants de Génération Z qui ont entre 20 et 25 ans et qui, à mon avis, ne connaissent pas cette référence.
Et surtout, Éric Zemmour prend cette date des 1000 ans puisqu'il fait référence au couronnement du Capet en 987, date que beaucoup d'historiens prennent en référence. Merci François de nous avoir appelé. Nous sommes maintenant avec Jean-Luc qui nous appelle de Toulon. Bonjour Jean-Luc.
Oui, bonjour Jean-Luc.
Bonjour Monsieur Berkoff. Je suis très heureux de participer la première fois à votre émission que j'écoute religieusement depuis longtemps et à laquelle je suis quasiment drogué. Quand
Merci.
Vous n'êtes pas là, je suis en manque.
Merci de votre addiction.
Voilà. Bien, je voulais rebondir sur une réflexion de Monsieur Geoffroy Lejeune, que je salue également.
Bonjour Monsieur.
Et que je trouve très judicieuse au sujet de l'influence possible sur le vote final que représenteraient les abstentionnistes, dont je fais partie depuis une vingtaine d'années. Je crois que la dernière fois que j'ai voté, c'était pour le premier mandat de Chirac. J'avais voté en 81 pour Mitterrand, d'ailleurs. Hein, et j'ai voté après pour Chirac. Et là, depuis ce premier vote, où je me suis senti un peu cocufié, je n'ai plus voté. Je n'ai plus voté. Et donc, je pense effectivement qu'il y a beaucoup de gens comme moi qui vont retourner aux urnes, car nous sommes absolument séduits par le discours de Éric Zemmour qui parle non pas aux électeurs, mais il parle aux Français. Et ça, vraiment, il y avait longtemps qu'on attendait ça. Et je pense aussi que, effectivement, M. Macron n'attend que Mme Le Pen au deuxième tour pour pouvoir remporter le final.
Pour la seconde fois, bien sûr.
Voilà, oui.
Oui, c'est intéressant. Voilà, monsieur est abstentionniste, il le dit depuis longtemps, puisque la dernière fois que vous avez voté, c'est bien pour Chirac, c'est
pour Chirac, la première fois, hein, pas la deuxième.
Donc 95. En 95, oui, c'est
à peu près, oui.
Ça fait quand même presque 30 ans, c'est pas...
Presque 30 ans, ouais, ben oui, je pensais 20 ans, mais je suis...
Voilà. Non, mais quand même, monsieur a dit une phrase très intéressante, il s'adresse aux gens comme à des Français, pas comme à des électeurs. C'est vrai que ça fait une grosse différence. En fait, je pense que la peur de se faire cocufier n'existe n'existe pas quand on se dit qu'on va voter pour Zemmour. C'est quelqu'un qui, en fait, n'est pas dans le cynisme, il prend beaucoup de risques que les politiques ne prennent pas, parce qu'en fait, en réalité, il n'est pas comme eux. Ouais.
Oui, absolument, il n'y va pas pour faire carrière, en plus. Ouais, il va prendre que des coups, en y allant. Donc, il se donne à la France, je trouve, hein, mais parce que il n'a aucun intérêt, il avait une vie confortable, intéressante, et il n'avait pas besoin de ça pour compliquer son existence.
Alors, vous avez raison. Alors, Geoffroy Lejeune, vous avez écrit Zemmour président, je le rappelle, il y a 6 ans. À l'époque, on disait, bon, on faisait des politiques fiction, on aime bien ça. Et là, vous ajoutez dans votre livre paru chez Ring, hein, que je recommande, de la fiction à la réalité suivie de l'élection ordinaire. En fait, ce sera tout sauf une élection ordinaire.
Ouais, alors, en fait, l'éditeur avait eu l'idée du titre Une élection ordinaire pour une bonne raison. C'est qu'en fait, dans ce livre, à l'époque, j'avais un narrateur qui était un journaliste de gauche et qui, en fait, concluait le livre, il racontait donc l'élection d'Éric Zemmour, et il concluait en disant en fait, on a été aveugle, tout était sur la table, toutes les pièces du puzzle étaient sur la table, et maintenant que c'est arrivé, que Zemmour est devenu président, en fait, on voit qu'on aurait pu le deviner. Et donc, j'avais fait exprès, l'éditeur avait choisi ce titre pour ça, pour dire qu'en fait, en réalité, imaginez-vous, André, projetez-vous, et c'est ce que j'ai fait, c'est l'exercice que j'ai fait pour ce livre, dans 6 mois, Éric Zemmour est à l'Élysée, vous direz, et vous aurez raison, en fait, on aurait pu le sentir venir. On aurait pu sentir venir la grande désaffection du politique, le ras-le-bol des électeurs de droite, les trahisons successives, les gilets jaunes, tout ça, en fait, on l'a sous les yeux. Donc, l'apparition du phénomène Zemmour, en fait, elle est explicable assez facilement.
Oui, c'est vrai. Et puis, effectivement, on verra, ça, rien n'est joué. Et celui qui vous fait une prédiction aujourd'hui, il vous dit ce sera X ou Y, évidemment, c'est n'importe quoi. Pour le moment, on ne va pas jouer les voyants, mais on va regarder ce qui se passe. Et c'est vrai que Geoffroy Lejeune, ce livre participe effectivement à cette élucidation. Et puis le reste, à vous de jouer.
Absolument.
Qui votera, verra.
Merci beaucoup de nous avoir appelé au 0826 300 300. Je rappelle le titre du livre Zemmour, président de la fiction à la réalité aux éditions Ring. Vous pouvez le trouver en librairie, évidemment, sur Internet. Et puis dans un instant, Brigitte Lay, qui, comme d'habitude, vous parlera de ses sujets habituels. Mais vous nous rappelez demain au 0826 300 300.
Sud Radio Berkoff dans tous ses états, midi 14h. André Berkoff.
Avec le parfum d'Air de France, 100% des bénéfices au service de notre pays.